Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Rosalie Suc, mais aussi Margot Le Ridon, Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en ondes ce matin par Dali Yaha. À l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, on continue notre série consacrée aux grands chantiers diplomatiques du moment. Lundi, nous avons analysé les tensions au Moyen-Orient et les nouveaux rapports de force dans la région. Hier, nous avons parlé de l'urgence climatique après le discours marquant de Greta Thunberg à l'ONU. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux droits de l'homme et à l'instrumentalisation qui peut en être faite. Droits humains, une arme diplomatique pour l'interrogation, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Le ministère des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite a été informé de la déclaration du ministre canadien des Affaires étrangères et de l'ambassade canadienne du Royaume, une déclaration sur des soi-disant militants de la société civile qui sont emprisonnés et qui appellent les autorités saoudiennes à libérer ces militants immédiatement.
Nous devons parler clairement. Nous ne sommes pas comme l'Europe, nous ne sommes pas comme les États-Unis. Nous sommes une région qui a des spécificités et sa nature est spéciale.
Je suis invité par le président français, je suis un peu mal à l'aise en le disant, mais vous savez tous que pendant les manifs des Gilets jaunes, il y avait plusieurs dizaines de personnes qui avaient été blessées et on ne veut pas du tout que des événements pareils se passent dans la capitale russe, mais on va toujours respecter la loi.
Dans l'ordre, un journaliste saoudien expliquant que son pays a décidé d'expulser l'ambassadeur du Canada et de geler ses relations commerciales avec Ottawa après des critiques du gouvernement Trudeau sur la répression des militants des droits de l'homme. Le président égyptien Al-Sisi, qui en visite à Paris, expliquait-lui que son pays n'a pas les mêmes valeurs. Une réponse aux attentes françaises concernant les libertés fondamentales évoquées lors de leur entretien. Et puis enfin, Vladimir Poutine, qui lors du G7 de Biarritz faisait la leçon au président français en lui expliquant que le mouvement des Gilets jaunes avait provoqué des violences policières inacceptable, ce qui est vrai, et qui ne souhaitait pas que de tels événements se déroulent en Russie, ce qui est un petit peu malvenu de la part d'un responsable qui enferme ses opposants à tour de bras et qui n'hésite pas à faire éliminer les indésirables de la journaliste Anna Politkovskaya à l'opposant Boris Nemtsov, en passant par l'ancien espion Sergei Skripal. Mais la Russie n'est évidemment pas la seule à faire usage des droits de l'homme à géométrie variable. Donald Trump lui-même s'est trouvé une nouvelle cause du côté du Xinjiang, avec la répression dont sont victimes les musulmans ouïghours, tout en séparant des familles à la frontière mexicaine, à moins qu'il s'agisse seulement d'un levier pour mettre la pression sur Pékin dans la guerre commerciale qui les oppose. On en parlera tout à l'heure avec Marc Julien. Et puis plus récemment encore, c'est le Pakistan qui vient de déposer une demande d'enquête auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur la situation dans le Cachemire indien. On essaiera de comprendre les tenants et les aboutissants de cette action diplomatique lancée par Islamabad avec Charlotte Thomas pour évoquer l'état des droits de l'homme, les instances, les entités, les agences censées les protéger et la manière dont ils peuvent devenir une arme politique, une arme diplomatique. Nous avons invité ce matin Ronnie Broman. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes essayiste, ancien président de MSF et directeur d'études d'ailleurs à la Fondation Médecins Sans Frontières, auteur d'un certain nombre d'ouvrages, je citerai « Guerres humanitaires, mensonges et intox » parce qu'on en parlera, qui était paru chez Textuel, mais aussi co-auteur de « Diplomatie de l'ingérence », on en parlera également. Ronnie Broman, vous avez probablement entendu quelques extraits au moins des discours qui ont été prononcés à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et globalement, l'écho qui nous en vient ne fait quasiment pas mention ou assez peu des droits de l'homme. On parle beaucoup du climat, on parle beaucoup de l'escalade des tensions dans le Moyen-Orient, de la question iranienne. On parle de la guerre économique entre Washington et Pékin, mais quasiment pas de la question des droits de l'homme. J'ai écouté des extraits de Donald Trump, de Jair Bolsonaro. Alors pour eux, peut-être que c'est pas très étonnant, mais Emmanuel Macron non plus. Il n'est quasiment pas fait mention, peut-être même pas du tout, des droits de l'homme. Alors que dans son premier discours, il y a 2 ans, c'était la pierre angulaire de son discours. Que vous inspire le fait que ces droits de l'homme soient les grands absents des discours de cette Assemblée générale des Nations unies ?
Mais... d'une part, cela nous rappelle que les Nations Unies ne sont pas l'unité des nations, mais l'unité des États. des pouvoirs politiques qui dirigent ces nations et que par conséquent la question des droits de l'homme fait partie de l'attirail dont ils disposent pour gouverner, pour installer leurs relations internationales, pour construire leur image, mais à aucun moment on peut considérer qu'un chef d'État peut être un militant des droits de l'homme. Et lorsque la France se présente comme le pays des droits de l'homme, d'ailleurs, il y a un abus de langage dans cette formulation. La France est le pays où a été rédigée la première déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, ça, c'est vrai. Mais enfin, rappelons-nous les conditions dans lesquelles celle-ci a été annoncée, ce qui s'en est suivi, les morts et les atrocités qui ont été, qui ont marqué, disons, la fin du 18e, tout le 19e, etc. Donc, se présenter comme le pays des droits de l'homme, c'est d'abord une rhétorique de communication, c'est je ne dirais pas un artifice, mais enfin une stratégie de communication. Et c'est vrai pour tous les États, plus encore pour la France, du fait de cette habitude de se présenter ainsi, mais ça n'est qu'une question de degré, parce que c'est vrai pour tous.
Par ailleurs, il n'empêche que il semble apparaître que précisément aujourd'hui, ce n'est plus ou c'est beaucoup moins une stratégie de communication.
Oui, en effet, enfin on verra à l'occasion cette communication ressurgir lorsque elle est opportune. Par définition, une communication se mobilise dans certaines circonstances, elle est adéquate à certaines situations, elle ne l'est pas à d'autres. À certains moments on parle à la Chine ou à l'Arabie Saoudite ou à la Russie en évoquant les droits de l'homme, à d'autres moments, on les met sous le tapis parce que d'autres considérations commerciales, stratégiques, ou que sais-je, interviennent et viennent relayer le discours des droits de l'homme, ce qui le place à sa véritable situation dans l'espace politique mondial qui est celui des relations intergouvernementales. Mais dans l'espace politique mondial qui est celui des relations entre sociétés, on y viendra peut-être, la situation se présente différemment. Et donc le discours des droits de l'homme, selon qu'il est tenu par des chefs d'État ou par des organisations issues de la société civile, a une autre signification, a une autre portée. Mais je voudrais juste terminer sur l'Assemblée générale des Nations Unies, là, dont l'orientation générale a été marquée par la préoccupation, par l'inquiétude climatique, à juste titre. Et là, on retrouve, je pense, une tendance croissante au-delà des effets de surface, disons au-delà des turbulences superficielles qui agit toujours le monde politique. Il y a le phénomène plus profond qui est la montée de l'angoisse climatique, fin du mois, fin du monde, comme l'avait déjà théorisé un certain nombre de philosophes, je pense notamment à Hans Jonas dans son ouvrage sur intitulé Le principe responsabilité, la préoccupation pour les générations futures, l'inquiétude que l'on peut avoir de la préservation d'un monde vivable vient heurter de front, d'une certaine manière, l'aspiration démocratique. La démocratie a cette caractéristique d'être un régime par définition à court terme, fondé sur le principe de l'alternance, de la révocation du pouvoir, et sur l'adéquation entre un certain pouvoir et son opinion, sa base électorale. Et cela est difficilement compatible avec les politiques forcément un peu punitive à certains aspects et inscrite dans le long terme, donc avec des effets qui sont retardés par rapport au moment où elles sont prises, et même très longuement retardés. Et cela, ça s'inscrit mal dans un cadre démocratique. Il faut souhaiter qu'on parvienne, in fine, grâce à cette inquiétude écologique, à l'inscrire. Mais aujourd'hui, il y a frottement, il y a contradiction. Et c'est là que je vois, je pense, enfin c'est là que se trouve, à mon avis, la cause de ce recul,
cette relégation des droits de l'homme. Voilà. Alors, il y a évidemment cette montée en puissance de l'angoisse climatique que vous évoquez, mais il y a aussi la montée en puissance d'un autre phénomène, qui est celui du populisme, évidemment, qu'on voit un peu partout, en Europe, aux États-Unis, du côté du Brésil. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que cette question des droits de l'homme est reléguée? Pas forcément d'ailleurs parce qu'on considère que c'est plus un sujet, mais parce qu'on comprend qu'avec ce type de régime-là, au fond, affronter de façon trop brutale cette question-là ne fonctionne pas. On l'a vu un petit peu avec Emmanuel Macron, d'ailleurs, qui, d'une certaine manière, a mis un peu d'eau dans son vin, et maintenant on discute plus facilement avec un Poutine. On voit bien peut-être qu'il y a une évolution aussi.
Enfin, je mettrai pas tout cela sur le même plan. Il me semble que discuter avec Poutine, c'est atterrir sur un terrain politique par rapport à une époque où on faisait mine de, parce que je crois pas que ça a été jamais réellement sincère, mais enfin, on faisait mine de se réfugier sur une sorte d'Aventin des droits de l'homme où la France ne parlait que aux amis des droits de l'homme et révoquait les autres. Ça, c'est totalement ridicule. Il peut pas y avoir de diplomatie sauf encore une fois, opportunisme à court terme et très localisé. Il peut pas y avoir de diplomatie fondée sur les droits de l'homme. Ça, je
c'est exactement ce que disait Raymond Aron, d'ailleurs. Exactement ce qu'il disait. On ne peut pas faire une politique étrangère à partir de l'idée du respect des droits de l'homme. Voilà ce qu'il écrivait dans Le Spectateur engagé. Il n'empêche que c'était un peu ce que faisait François Hollande à propos de la Russie.
Oui, à propos de la Russie, dans une espèce de, dans un opportunisme politique qui, je pense, ne trompait personne, peut-être même pas lui. Mais enfin, c'est le même président qui, par exemple, passait une soirée privée mais filmée avec Netanyahou, chantant la vie en rose pendant que on organisait l'asphyxie, le blocus de Gaza et que l'occupation de la Cisjordanie se poursuivait. Donc on voit bien que c'est de toute façon à géométrie variable. Ce qui était valable avec Poutine ne l'était pas avec Netanyahou, alors que les deux personnages sont tout de même très ressemblants. Ils s'inscrivent dans une perspective populiste commune où tous les coups sont permis et où, surtout, c'est là que je voulais en venir, on s'appuie sur une population pour l'amener vers une sorte d'horizon radieux, on lui promet des choses, mais qui n'est jamais un horizon d'émancipation, mais plutôt un horizon fait de poursuite de boucs émissaires. Et je crois que c'est ça qui caractérise, enfin à mes yeux, c'est ça qui caractérise le populisme. C'est pas tellement la mobilisation populaire autour de thèmes qui intéressent la population, parce qu'après tout, ça fait aussi partie des relations ordinaires d'un pouvoir avec une population, mais c'est la recherche de boucs émissaires que j'oppose personnellement à la recherche d'une émancipation collective. Eh bien, on le voit, des Philippines à la Russie, en passant par l'Inde, Israël, le Brésil ou les États-Unis, et aujourd'hui peut-être en Europe aussi, avec les migrants, avec cette recherche de bouc émissaire est probablement l'un des pires ennemis de l'idéal, d'un idéal démocratique, d'un idéal émancipateur, et donc finalement d'un idéal d'accomplissement des droits de l'homme.
Rentrons peut-être un petit peu dans la mécanique onusienne, Ronnie Broman, pour voir ce que l'ONU peut ou ne peut pas en matière de promotion des droits de l'homme. Il y a parmi les entités chargées de défendre, garantir les droits de l'homme, il y a le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, qui est dirigé, présidé par Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du Chili. D'ailleurs, on parlait des populismes, il se trouve que les deux entités ont été en confrontation directe, puisqu'il y a eu cette passe d'armes entre Michelle Bachelet, qui craignait un recul démocratique au Brésil, et Jair
qui constatait un recul
constatait et Jair Bolsonaro de répondre que en gros heureusement qu'au Chili à une autre époque on avait renversé ces terribles communistes dont le père précisément de Michelle Bachelet qui rappelons-le est mort dans les geôles chiliennes. Donc on voit bien là dans son contexte-là.
On voit aussi à quel niveau d'abjection on peut descendre dans ce domaine.
Mais on peut aussi se demander, Ronnie Broman, ce que peut précisément une entité comme le Haut Commissariat aux droits de l'homme dans un tel contexte avec la montée du populisme que vous décriviez à l'instant.
Mais peu de choses. D'abord, tenter de sauver l'honneur, c'est pas grand-chose, c'est souvent symbolique, mais après tout, ça peut aussi rendre des services. Aussi rappeler certaines vérités. Et il me semble que le Haut Commissariat aux droits de l'homme est l'entité intergouvernementale, l'entité, disons, onusienne, à préserver dans ce domaine, parce que elle bénéficie de la présence d'une institution, de capacité d'investigation sur le terrain et d'une certaine marge de manœuvre, une marge de manœuvre que un haut fonctionnaire des Nations Unies peut utiliser dans certaines limites. Tout de même, il faut pas perdre cela de vue, mais tout de même. Et moi, j'ai été admiratif de la position de Michelle Bachelet par rapport au Brésil, de sa capacité, sa détermination à affronter cette espèce de brute fascisante de Bolsonaro. Mais c'est dans le système onusien la seule institution que je préserverais. Par exemple, le Conseil des droits de l'homme, lui, basé à Genève, qui est le rassemblement des États qui, chaque année, donc, produit un rapport sur les droits de l'homme.
Qui avait été créé en 2006.
Me semble... Oui. Oui, enfin, faisant après, la suite, c'est ça, après, enfin, prenant la suite du comité des droits de l'homme, me semble totalement superflu.
Pourquoi gâchis qu'est-ce qui dysfonctionne dans ce Conseil des droits de l'homme?
Parce que ce n'est que le Conseil des droits de l'homme, ce sont les gouvernements, ce sont les représentants des gouvernements, et par essence, par nature, je pense qu'on peut même à peine leur en vouloir, et même d'ailleurs pas du tout leur en vouloir, les droits de l'homme ne sont qu'un instrument d'un arsenal plus vaste qui est la puissance de rétorsion commerciale, militaire, diplomatique, etc. Donc c'est simplement un outil, ça n'est pas un accomplissement. Et dans cette mesure-là, je ne vois pas l'intérêt d'entretenir à Genève toute une organisation qui coûte de l'argent, qui a une empreinte carbone sans doute assez préoccupante, en tout cas assez lourde. Et donc, autant dissoudre ce qui ne sert absolument à rien. Les seuls qui en pâtiraient peut-être, et je le regrette pour eux si mon aspiration était réalisée, ce sont les employés de cette institution. Mais les victimes des violations des droits de l'homme, elles, ne verraient absolument aucune différence dans leur sort.
Finalement, vous êtes sur une ligne pas si éloignée que ça de l'ancienne ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, qui en juin 2018 annonçait précisément le retrait des États-Unis de ce fameux conseil. Souvenez-vous.
Pendant trop longtemps, le Conseil des droits de l'homme a été un protecteur des violateurs des droits humains et un cloaque de partis pris politiques. Malheureusement, il est maintenant clair que notre appel à la réforme n'a pas été entendu. Les violateurs des droits de l'homme continuent à sévir et à être élus au Conseil. Les régimes les plus inhumains du monde continuent à échapper à tout examen, et le Conseil continue de se politiser et de faire fuir les pays protecteurs des droits de l'homme afin de détourner l'attention des agresseurs et de leurs alliés. Par conséquent, comme nous avions prévenu il y a un an, si nous ne voyons aucun progrès, les États-Unis se retirent officiellement du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.
Voilà, c'était donc Nikki Haley.
Oui, malheureusement, elle a assez largement raison, je ne dirais pas entièrement raison, et il est évident que les raisons qui sous-tendent ce discours, elles, sont purement cyniques, purement instrumentales, purement locales par rapport à l'électorat ultra-conservateur de Trump. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais factuellement, pour ce qui concerne le Conseil des droits de l'homme, moi je ne peux pas lui donner tort. Il y a longtemps, je n'ai pas attendu Nikki Haley pour cela, il y a longtemps que j'ai constaté cela.
Par ailleurs, les États-Unis aussi, ça fait bien longtemps qu'ils critiquent les institutions supranationales chargées de promouvoir les droits de l'homme. C'est pas nouveau, ça, c'est pas depuis Donald Trump.
Non, bien sûr. Alors, ils l'ont fait avec plus de doigté, plus de tact dans le passé, même à l'époque dorée du multilatéralisme, qui est l'époque, disons, qui se situe entre la chute du mur de Berlin, donc l'effondrement de l'Empire soviétique, la fin de l'ère bipolaire, et puis l'élection de Bush, en gros. Donc, la décennie 90, même à cette époque, qui a été, je pense, l'unique moment dans l'histoire récente, disons l'histoire depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire des Nations Unies, l'unique moment où le multilatéralisme a été, c'est-à-dire vraiment la concertation internationale pour tenter de régler de grandes questions, a été vraiment au premier plan. Mais c'était, comme l'a relevé le politologue Pierre Asner, héritier intellectuel de Raymond Aron, c'était, comme il l'a noté, un multilatéralisme botté, c'est-à-dire un multilatéralisme sous direction américaine, parfois direction hégémonique, à d'autres, comme au moment du Kosovo, ou direction plus large. Mais enfin, c'était ce multilatéralisme qui n'était pas entièrement multilatéral, puisqu'il était sous une direction. Tout cela a volé en éclats, et aujourd'hui, on regarde cette période avec un certain regret, tout en oubliant d'ailleurs les grandes déceptions que l'on a vécues à ce moment-là, c'est-à-dire par exemple l'inaction, enfin l'impuissance face à la guerre en ex-Yougoslavie, le génocide Tutsi au Rwanda qui a été laissé à son libre cours, le tout étant finalement suivi par une sorte de lot de consolation qu'ont été les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, suivi de la mise en place d'une cour pénale internationale dont on voit aujourd'hui qu'elle est entièrement soumise à la logique de puissance, aux logiques de puissance en général et à la logique de puissance américaine en particulier, donc qui n'est qu'un instrument de pouvoir supplémentaire, mais pas du tout un instrument au service des droits de l'homme.
Est-ce que vous faites référence, quand vous dites ça, à la décision de sa procureure, Fatou Bensouda, de faire appel dans la condamnation de Laurent Gbagbo, qui est très critiqué par, évidemment, les partisans de Laurent Gbagbo depuis quelques jours? C'est un appel qui est très récent, c'était il y a quelques jours.
Disons, je pense plutôt... Elle fait appel de cette décision parce qu'il semblerait que l'acquittement ou la relaxe, je ne sais plus techniquement, je ne suis pas tout à fait sûr, l'acquittement, oui, de Laurent Gbagbo est en rapport avec des vices de procédure qui méritent d'être revus et donc qui appellent à un autre procès. Mais moi, je trouve que de toute façon, l'arrestation de Laurent Gbagbo, ça a été un acte, disons, de pouvoir, pas un acte d'émancipation, d'autres responsables de crimes de masse en Côte d'Ivoire et des partisans d'Alassane Ouattara s'en sont rendus coupables, ont été laissés de côté, et je trouve que ce partage politique qui a été fait par la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire reflète bien le partage politique dans lequel elle fonctionne. En général, on est du côté du manche et on tape sur ceux qui n'ont pas de protecteur. En gros, c'est ce qui résume, par exemple, lorsque le procureur précédent, Moreno Ocampo, parlait des camps de la mort pour parler des camps de personnes déplacées au Darfour, parler d'un génocide en cours qu'il fallait absolument arrêter. Il est évident qu'il faisait la politique des néoconservateurs américains qui se cherchaient un bouc émissaire au Soudan pour faire oublier ce qui se passait en Irak et qui avait trouvé dans ce pays qui a toujours été un opposant résolu et sous dictature, hein, que il n'y a pas de... qui n'est pas d'ambiguïté en ce qui me concerne, mais qui a toujours été un opposant à la politique américaine, ou en tout cas un opposant de façade, et qui donc d'un seul coup tombait sous le coup, disons, des critiques néoconservatrices, relayées par le procureur Moreno Ocampo. Et Fatou Bensouda, qui a été son assistante pendant longtemps, qui elle-même a fait carrière dans un pays dictatorial, dans lequel la Gambie, dans lequel la justice est entièrement soumise au pouvoir, vient d'un seul coup donner des leçons de maintien droit de l'hommiste sur la scène internationale. C'est absolument ridicule. Elle était soumise quand elle était procureure en Gambie, elle était soumise quand elle était l'assistante de Moreno Ocampo, elle reste soumise en étant la procureure de la Cour pénale internationale. C'est qui est la logique même de fonctionnement de cette cour.
Mais alors, comment rend-on justice lorsque des individus, des responsables politiques, se sont accusés de crimes de masse, de génocide, que sais-je encore? Comment fait-on pour rendre justice? Puisque la CPI, visiblement, et vous avez assez largement raison, c'est un avis qui est assez largement partagé, est instrumentalisé, politisé, etc. Comment fait-on? Est-ce que, par exemple, les tribunaux pénaux internationaux que vous avez mentionnés sur la Yougoslavie, sur le Rwanda qu'on a utilisé, qui ont cette particularité d'hybrider les choses, puisqu'on a à la fois une partie, disons, et des magistrats internationaux, et puis une partie de magistrats locaux, est-ce que cette version-là d'hybridation du droit...
Enfin, disons, ces cours hybrides me semblent déjà préférables pour deux choses. D'une part, parce qu'elles mobilisent des magistrats du pays dans lesquels une population peut tout de même se reconnaître plus ou moins, parfois moins, parfois un peu plus, mais enfin, en tout cas, peut avoir un lien. Et d'autre part, et c'est là que ça se distingue des TPI qui siègent, des tribunaux pénaux internationaux qui siègent à La Haye, ces cours hybrides sont sur place, elles ne sont pas hors sol. Oui. Et il me semble que la distance physique, dont on a parfois tendance à oublier l'importance du fait du règne de l'instantané, et donc du non-lieu, d'une certaine manière, par les techniques de communication, cette distance physique, elle compte. Elle compte dans l'appréciation qu'on peut avoir d'une situation, elle compte dans la capacité à se projeter, à se reconnaître, à fournir une légitimité à ces tribunaux. Donc c'est une meilleure solution. Mais il y a tout de même un problème de fond dans le jugement des crimes de masse, dans le jugement judiciaire, disons, des crimes de masse. Parce qu'après tout, il y a d'autres jugements que judiciaires. Il y a le jugement de l'histoire, le jugement de l'opinion, le jugement que dans des articles, dans des colloques, dans des manifestations publiques, dans des instances de, disons, critiques, on peut avoir. C'est-à-dire toutes ces formes pas très formalisées d'expression publique, pour moi, elle rentre dans la catégorie du jugement. Donc le jugement judiciaire, il n'est qu'une des dimensions du jugement en général. Après tout, on peut... Bon. Donc déjà, ça, c'est important. Mais le jugement judiciaire a pour inconvénient, à mon sens, de dépolitiser, au pire sens du terme, les crimes de masse, qui sont toujours des crimes politiques, parce que commis par le pouvoir ou par des candidats au pouvoir, hein, c'est pas forcément le pouvoir lui-même, ça peut être une opposition qui tue en masse également. Mais le fait, la justice moderne sur laquelle se fonde la Cour pénale internationale, comme toutes les formes de justice contemporaine, elle se fonde sur l'adéquation, enfin la relation entre une personne et un fait. Elle est individualisée par essence. La responsabilité collective fait partie des repoussoirs de la justice moderne au profit d'une individualisation de la responsabilité et de la culpabilité. Or, c'est précisément ce qui ne se passe pas dans les crimes de masse, où la responsabilité est largement
liée au contexte,
partagée, liée au contexte. Et par exemple, le fait de savoir si le donneur d'ordre est plus coupable que l'exécutant, vieille question, disons, qu'on a vu débat dans le procès Eichmann, dans les tribunaux de Nuremberg, ou à d'autres occasions, est d'une certaine manière insoluble, selon les préférences philosophiques des uns ou des autres. Chacun juge de cette façon, mais on peut parfaitement défendre l'idée que juger les intermédiaires, juger les secondes, bon couteau serait plus efficace parce que préviendrait d'autres potentiels second couteau que leur sort risquerait d'être menacé au cas où ils participeraient à des choses, à des crimes, à des violations massives des droits de l'homme. Et puis on peut soutenir l'argument exactement inverse. Et finalement, moi, je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Je vois simplement que l'individualisation de la peine relègue les crimes de masse au rang de faits divers. Et c'est ça que je veux dire par dépolitisation. C'est-à-dire, finalement, c'est un accident regrettable, on va juger des gens, et puis ça passe par profit et perte, parce que de toute façon, les capacités de jugement sont extrêmement limitées. Donc on va juger quelques personnes, quelques dizaines de personnes, regardez sur le...
Les capacités d'enquête, vous voulez dire ?
Enfin, d'enquête et de jugement. Ouais. Regardez le TPIR, donc sur le Rwanda, a jugé 80 personnes, ou 90 personnes. Il a fait un bon travail. Le jugement de ces 90 personnes est un jugement sérieux. Des acquittements ont été prononcés, des peines modulées ont été également prononcés, ce qui montre que tout ça a été fait avec un très grand sérieux juridique et judiciaire.
Il y a aussi eu des jugements plus locaux avec ces tribunaux gachacha, etc. La CPI n'a pas été, la justice internationale n'a pas été la seule à traiter ce sujet-là.
Oui, mais regardez l'impasse dans laquelle se trouve d'abord les gachacha ont été dans une assez large mesure, je ne dis pas que ça a été toujours contrôlé par l'État rwandais qui, à l'abri du génocide dont les Tutsis rwandais ont été victimes, met en œuvre une politique quasiment totalitaire, enfin en tout cas extrêmement autoritaire. Je vous rappelle que le président Kagame a été élu, entre guillemets, avec 99% des voix. Et donc, à soi seul ce chiffre, à lui seul ce chiffre dit ce qu'est ce régime. Dans ce contexte, la justice totalement soumise à l'État, y compris les gachacha, donc ces tribunaux dits traditionnels qui n'ont rien de traditionnel dans leur forme actuelle, sont pas plus crédibles. Et ça nous met en face d'une situation qui est politiquement importante, même si elle est moralement déprimante, qui est que un régime criminel a succédé à un régime criminel au Rwanda, et qu'il faut faire avec ça. Dans cette mesure-là, la justice est pour l'instant impossible. Mais la justice, elle ne se rend pas nécessairement sur le moment. Elle est différée. La contemplation des crimes de masse, le jugement qu'on peut porter sur eux, les critiques, les leçons qu'on peut en tirer, la morale qu'on peut essayer d'en tirer également, tout cela se fait à distance et selon des temporalités distinctes. Ce qui s'est fait en Espagne avec Franco, ou en Argentine après les généraux, ou qui n'a pas été encore fait en Russie après l'époque communiste, eh bien, ce sont les sociétés finalement qui en partie en décider. C'est là, à mon avis, que repose la réponse à ça, non pas la solution, parce que de toute façon, ce sont des problèmes sans solution, mais en tout cas, la réponse que les sociétés peuvent apporter à ces crimes de masse.
Ronnie Broman, je voudrais qu'on évoque peut-être une question qui n'a pas de solution, en tout cas, on n'a pas trouvé de solution jusqu'ici, c'est la question de la Syrie. Aujourd'hui, les Occidentaux reconnaissent évidemment que ce conflit en Syrie, c'est probablement la pire crise humanitaire du 21e siècle. C'est d'ailleurs ce que disait récemment Mark Lowcock, qui est le directeur des affaires humanitaires aux Nations Unies.
Si je peux me permettre, ça n'a rien, enfin, une crise humanitaire, je ne sais vraiment pas ce qu'on entend par là. C'est pour moi, je vous rappelle, crise humanitaire, Cette formulation a été, à ma connaissance, et j'ai recherché un peu là-dessus, utilisée pour la première fois comme un substitut à l'emploi du mot génocide dans la résolution du 21 ou 22 juin 94 concernant le Rwanda, et c'était pour l'envoi de la force dite turquoise. Donc c'est basé sur une volonté. Cette formule a été conçue dans un but de dissimulation. Et d'une certaine manière, c'est un peu comme si on parlait de la nuit de cristal en parlant d'une crise vitrière, ou d'un viol en parlant d'une crise gynécologique, si vous voulez, ou d'un passage à tabac raciste en parlant d'une crise traumatique.
Pour éviter de créer des blocages, mais d'une certaine manière.
Pour ne pas utiliser les mots qui conviennent pour désigner la situation.
Sauf que ce qu'on remarque aujourd'hui, Ronnie Broman,
c'est qu'en Syrie, il y a une guerre totale. C'est comme ça qu'il faut caractériser, à mon avis, la situation en Syrie, pas une crise humanitaire.
Entendu. Il n'empêche que, Ronnie Broman, précisément la formule crise humanitaire, la question de l'action humanitaire, elle est centrale et elle explique la raison pour laquelle on n'intervient pas. Il y a eu là récemment encore un 13e veto de la Russie au Conseil de sécurité, qui refuse l'action humanitaire, précisément parce qu'il considère le pouvoir russe que l'action humanitaire en réalité est totalement politisée. Et de leur côté, les Occidentaux considèrent que la priorité, c'est précisément l'action militaire, c'est protéger les civils. Donc on voit bien comment cette question de la crise humanitaire est centrale dans le blocage et empêche toute avancée dans cette crise syrienne.
Non, je ne vois pas les choses comme ça.
Alors,
bien sûr, Poutine joue un rôle de blocage, mais je pense que ce blocage est béni par ceux qui prétendent vouloir faire autre chose en Syrie. Ce blocage est une aubaine parce que du côté de ceux qui on dit, parce que maintenant on n'entend plus ce discours, il est totalement révolu, mais qui ont dit pendant plusieurs années qu'une intervention militaire pourrait protéger les populations, sauver l'insurrection démocratique en Syrie, n'avait pas la moindre idée de la manière dont cela allait se faire. Et lorsqu'on contemple les dégâts qu'ont fait cette intervention dite humanitaire, enfin militaro-humanitaire, franco-britannico-américano-qatari en Libye, je parle de l'intervention en Libye qui a renversé le régime, tué Kadhafi et donné ensuite lieu à la situation que nous connaissons maintenant. Cette leçon libyenne, elle est déjà présente, je pense, dans les esprits, mais il y a aussi l'Irak et les suites de l'intervention américaine en Irak. Et puis il y a le fait que on ne sait pas, personne ne sait, d'ailleurs les présidents successifs l'ont dit, mais pas seulement eux, des observateurs beaucoup plus indépendants, beaucoup plus crédibles que cela l'ont dit également, sur quelle force s'appuyer en Syrie pour pouvoir changer la situation politique. Personne ne le sait vraiment. Du coup, les foucades de Poutine au Conseil de sécurité sur la Syrie sont d'une certaine bienvenue. Je vous rappelle que quand il s'agissait du Kosovo, où là il y avait une force politique, Luceka, que les Américains voulaient mettre en place, et puis un enjeu stratégique important, et sans doute aussi un enjeu intérieur important, faire oublier l'affaire Levinsky, tout en mettant l'OTAN en situation stratégique de premier plan. C'était ça, finalement, les déterminants de la guerre du Kosovo. Eh bien, le veto de la Russie n'a pas été du tout dissuasif. Et on est passé, enfin, les Américains sont passés par-dessus avec l'appui de plusieurs Européens. Mmh. Donc, je ne crois pas du tout que ce veto soit autre chose qu'un alibi en or pour pouvoir ne pas intervenir sous les... Mais je ne leur en veux pas pour autant, parce que je ne vois pas comment une intervention militaire ferait autre chose qu'aggraver la situation, si c'est encore possible, en Syrie.
On est avec vous, René Breumann, ce matin, dans cette semaine consacrée au grand chantier diplomatique. Aujourd'hui, nous parlons des droits humains, une arme diplomatique. On va s'intéresser à un cas pratique, et en particulier le Cachemire.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Nous sommes emprisonnés comme dans une cage. Nous sommes totalement coupés du reste du monde. Nous ne savons pas ce qui se passe à l'extérieur et quelle sera la solution à notre problème à l'avenir. Mais le plus important, ce sont nos enfants. Ils souffrent et toutes les écoles sont fermées.
Voici les derniers appels que j'ai passés à mes proches. Depuis le 4 août, aucun de mes messages ne leur est parvenu. Je n'ai aucune nouvelle de ceux qui me sont chers. La dernière fois que j'ai parlé à ma famille, ils m'ont dit qu'ils s'inquiétaient de voir des militaires partout dans toute la vallée. Si j'y vais, ils m'arrêteront et diront que je suis un traître.
Voilà, extrait notamment d'un reportage de France 24, mais aussi de Arte. Ce Cachemire, alors depuis leur indépendance en 1947, il est au cœur des tensions entre l'Inde et le Pakistan, avec des conflits qui ont émergé à intervalles réguliers. Rappelons qu'au début du mois d'août, le Premier ministre indien Narendra Modi a décidé de suspendre le régime d'autonomie de la région Jammu et Cachemire. Et pour protester contre cette situation et la situation des personnes qui y vivent, le 10 septembre dernier, le ministre pakistanais des Affaires étrangères a demandé au Conseil des droits de l'homme de l'ONU d'ouvrir une enquête sur les actions de l'Inde dans le Cachemire indien, parlant d'éventuel génocide. C'est un terme qui a été utilisé notamment par le Premier ministre Imran Khan. Bonjour Charlotte Thomas.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes coordinatrice du programme Asie du Sud au sein du centre de recherche Noria. Imran Khan, il a plusieurs fois dénoncé l'inaction et le silence de la communauté internationale, et en particulier le silence des Occidentaux. Il a même dressé un parallèle, et on se dit que c'est évidemment pour provoquer des réactions entre la situation au Cachemire et la montée du nazisme dans les années 30 en Europe. Alors, au-delà peut-être des parallèles hasardeux, c'est vrai que on n'a pas beaucoup entendu les responsables occidentaux sur la situation à Cachemire. Comment le comprendre? Pourquoi ce silence?
Il y a plusieurs raisons à ça. La première, si on parle déjà de la situation indienne, c'est que la décision du Premier ministre à l'égard du Cachemire indien a suscité des mobilisations plutôt de soutien à cette décision au niveau national indien. Donc il y a très peu d'écho, d'éventuelles protestations contre cette décision ne font pas écho au niveau national, à part peut-être un peu dans la diaspora indienne. Ensuite, au niveau du Pakistan lui-même, le Pakistan a beau jeu évidemment d'appeler, enfin c'est toujours positionné comme le défenseur de la cause cachemirie. En revanche, on sait par des rapports également émanant du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies que la situation au Cachemire pakistanais, puisque le Cachemire est donc divisé entre l'Inde et le Pakistan, la situation au Cachemire pakistanais est elle-même très peu reluisante, puisque par exemple les Cachemiris pakistanais n'ont pas droit de vote aux élections nationales, sont aussi victimes de répression et de notamment à l'égard des journalistes, des activistes. Les voix en faveur de l'indépendance du Cachemire sont tuées par les forces armées également. Donc d'un point de vue national pakistanais, c'est un petit peu compliqué d'adopter cette position. Et puis après, si on prend soi-disant communauté internationale. Alors, le voisin direct, comme la Chine, on imagine qu'il a des intérêts économiques très importants au Pakistan, mais qui est également le premier partenaire économique de l'Inde. On imagine mal aujourd'hui attirer, se joindre à des protestations pour préserver le respect des droits de l'homme quand on songe à ce qui se passe au Xinjiang, mais également plus récemment à Hong Kong également. Et puis, pour les autres pays de la communauté internationale, par exemple les pays du Golfe, pour lesquels on pourrait peut-être imaginer une forme de solidarité autour d'une Ouma qui n'existe pas. De fait, cette Ouma n'existe pas, puisque les pays du Golfe ne soutiennent pas du tout leur partenaire pakistanais. Et enfin, pour les autres pays, notamment les pays occidentaux, comme la France ou les États-Unis, le fait que l'Inde soit une puissance économique en devenir avec lesquelles on a noué beaucoup de marchés est un élément important dans le fait qu'il y ait très peu de réactions, étant entendu aussi que l'Inde légitime sa décision comme une lutte contre le terrorisme islamique, qui depuis le 11 septembre fait écho au sein de la communauté internationale.
Charlotte Thomas, on va revenir sur un certain nombre de points que vous évoquiez, notamment peut-être ce manque de solidarité des pays musulmans, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, mais je reviens à cette demande du Pakistan, parce qu'effectivement, ce n'est pas un pays, le Pakistan, qui est connu pour être un modèle en matière de respect des droits de l'homme. C'est un pays qui est particulièrement mal classé, par exemple, sur l'égalité des sexes, sur la condition des femmes. On se souvient évidemment de cette affaire dont la presse internationale avait beaucoup parlé, Asia Bibi, condamnée à mort après avoir bu de l'eau dans un puits réservé à la communauté musulmane. Alors c'est vrai que finalement elle a été acquittée par la Cour suprême, enfin elle a quand même dû quitter son pays. Alors, que cherche le Pakistan quand il prend comme ça la défense du Cachemire ? Est-ce qu'il y a autre chose que la question du Cachemire ? C'est un outil diplomatique ? Il y a quelque chose sur lequel on est en train d'essayer d'appuyer ?
Alors déjà, on peut émettre, on n'a pas de certitude, mais on peut aussi émettre une hypothèse au niveau national qui est que les groupes terroristes djihadistes actifs au Cachemire indien sont des groupes qui ont été formés par l'armée indienne, par l'armée pakistanaise, pardon. Or aujourd'hui, on peut imaginer que ce qui se passe ne sied guère à ces groupes militants armés ni à l'armée pakistanaise. Donc on peut faire l'hypothèse que déjà cette projection au niveau international, enfin les prises de position du premier ministre pakistanais au niveau international ont aussi une vocation nationale, c'est-à-dire donner en fait un peu le change et dire ok, j'essaye quand même de mobiliser la communauté.
Ça c'est le volet diplomatie intérieure, si je puis dire.
Voilà, ouais. Voilà, exactement. On peut émettre cette hypothèse. Et puis au niveau international, au niveau du regard porté sur le Pakistan d'un point de vue international, l'économie pakistanaise est quand même dans une situation très compliquée. Elle dépend à cet égard énormément des investissements chinois qui passent par le corridor économique donc sino-pakistanais pardon, construit par les Chinois. Or, on sait que la Chine n'apprécie pas du tout le fait qu'il y ait des troubles au Pakistan, donc que ce soit au Cachemire au Cachemire pakistanais et au Baloutchistan par exemple, et donc appeler aussi à la communauté internationale, ça peut aussi permettre de donner une figure, enfin de vouloir donner un visage positif de soi, une figure morale, et puis aussi de dévier un petit peu l'attention sur ce qui se passe chez soi, chez le voisin indien, en essayant de dire qu'il se passe la même chose des deux côtés de la frontière. Et enfin, pour un peu casser cette image de pays qui abrite les terroristes qui lui a collé par l'Inde, mais aussi par d'autres puissances internationales.
Oui, et peut-être avec un objectif très particulier sur ce dernier point que vous venez d'évoquer, Charlotte Thomas, et puis ensuite je passe la parole à Ronnie Broman, c'est que alors j'ai lu en préparant notre entretien, c'est en tout cas ce que considère un certain nombre de diplomates aujourd'hui, c'est que cette pression pakistanaise aujourd'hui sur ce dossier cachemiri, elle serait peut-être aussi liée à une réunion qui va se tenir très très bientôt par le groupe d'action financière à propos de savoir s'il faut ou non mettre le Pakistan sur la liste des pays qui financent le terrorisme international. Il y a des diplomates qui disent assez directement, Islamabad défend le Cachemire, fait cette offensive diplomatique sur le Cachemire pour éviter précisément qu'on la mette sur cette liste-là. Ça vous paraît être une option aussi, Charlotte Thomas ? On est à ce niveau d'instrumentalisation ?
Ça rejoint en fait ce que je disais sur la posture morale, la position morale, la volonté de se présenter justement comme une puissance qui essaye elle aussi de lutter contre le terrorisme bien sûr, alors qu'on sait pertinemment que certains groupes ont été créés par l'armée pakistanaise, même si aujourd'hui ils se retournent contre l'État pakistanais, et ça rejoint petit inter, mais ça rejoint aussi la posture plutôt d'ouverture qu'avait adopté le Premier ministre Imran Khan en février dernier, si vous vous souvenez, lors des attaques de Pulwama et de la réponse indienne, où le Pakistan avait essayé de montrer aussi une figure d'apaisement justement face aux attaques indiennes. Mais la rhétorique terroriste, c'est complètement ce qu'utilise aussi l'Inde pour décrédibiliser le Pakistan. Donc oui, on peut complètement aller dans ce scénario.
Vous restez avec nous, Charlotte Thomas. Réaction avec vous, Ronnie Broman. Un cas pratique.
Ah, je crois que c'est l'illustration de ce dont nous parlions auparavant. L'instrumentalisation mutuelle et contradictoire des droits de l'homme, des libertés, l'instrumentalisation évidemment du terrorisme, comme la grande époque de la guerre froide, enfin de l'affrontement Est-Ouest, les forces subversives potentielles, réelles, enfin en tout cas qualifiées comme telles dans certains pays, justifiaient le soutien à des dictatures, des régimes autoritaires, voire justifiaient des entrées en guerre et des massacres épouvantable. Mais on retrouve là cette situation d'un classicisme sans faille.
Alors comment ça pourrait se finir, Charlotte Thomas? Est-ce qu'on peut imaginer que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU effectivement ouvre une enquête sur la situation au Cachemire? Comment vont peser les différents acteurs? Et je pense peut-être en particulier aux États-Unis. Est-ce qu'ils vont faire office de juge de paix? Est-ce qu'ils vont se situer entre l'Inde et le Pakistan? Est-ce qu'on va décider d'être neutre? Enfin, comment ça peut se passer?
Bon, alors sur l'avenir, comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas de boule de cristal, donc je m'aventurerai pas du tout à envisager ce qui peut, enfin, prédire un scénario. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que
les signaux du côté de l'administration américaine, parce qu'on sait que c'est important.
Ouais. Oui, alors du côté, et puis également sur le commissariat aux droits de l'homme, concernant l'administration américaine, on voit, enfin, Donald Trump a une diplomatie plutôt erratique, à laquelle il est difficile de voir des signaux clairs, pour faire une réponse un petit peu en demi-teinte, de la même façon que Trump s'est rendu au meeting de la diaspora qui accueillait Narendra Modi il y a quelques jours à Houston, en saluant Narendra Modi, en lui donnant des accolades très chaleureuses, en étant très enthousiaste. Le lendemain, il rencontrait Imran Khan en concédant que le fait que Narendra Modi dise que l'État pakistanais est un État terroriste était un petit peu méchant. Donc, juste pour donner cet exemple, on voit qu'en fait, il y a une difficulté vraiment à se positionner. Je pense que les États-Unis sont un petit peu entre deux eaux, puisque ils comptent aussi sur le Pakistan par rapport au conflit qui se déroule actuellement en Afghanistan. En même temps, l'Inde était une puissance économique, un partenaire important, et sur le plan diplomatique. Donc, j'ai du mal à envisager une ligne très claire, si ce n'est la non-action, à mon sens, et des déclarations dont on est familier, mais sans réel contenu. Et puis, un mot par rapport au commissariat des droits de l'homme, un rapport a déjà apparu en juin 2018 qui faisait l'état sur la situation des violations aux droits de l'homme au Cachemire, donc les deux Cachemires pakistanais et indiens. Il est paru donc en juin 2018. Il a bien sûr été dénoncé par New Delhi et soutenu par le Pakistan, mais mollement, puisque là aussi le rapport faisait aussi état des violations des droits de l'homme en cours au Cachemire pakistanais. Donc là aussi, on peut imaginer une sorte, de mesure en demi-teinte. Peut-être qu'un rapport sera effectivement fait, mais la portée de celui-ci, à mon sens, sera au-delà de la rhétorique très faible dans des actions concrètes.
Merci beaucoup, Charlotte Thomas. Je rappelle que vous êtes coordinatrice du programme Asie du Sud au sein de ce centre de recherche Noria. Un mot, Ronnie Broman, ou alors on passe tout de suite du côté des Ouïghours?
Non,
allons-y, Donald Trump ne se prononce pas sur le Cachemire parce qu'il est pris entre deux feux. Hein. Il y a évidemment des intérêts à défendre du côté du Pakistan, mais aussi de l'Inde, commerciaux du côté de l'Inde et sécuritaires du côté du Pakistan, comme nous l'expliquait Charlotte Thomas. En revanche, il y a un sujet sur lequel il se prononce assez directement, et on va le comprendre, c'est la question ouïghour. Les Ouïghours, cette minorité musulmane turcophone de l'ouest de la Chine, dans le Xinjiang.
Qu'est-ce que c'est cet endroit?
C'est une école, un endroit pour apprendre.
Pour apprendre quoi?
La langue nationale.
Et tu sais pourquoi ton père est là-bas?
Je ne sais pas trop.
Vous connaissez des gens à l'intérieur?
Oui, mon grand frère est dedans.
Pourquoi?
Il étudie.
Mais pourquoi a-t-il été envoyé ici?
On ne sait pas.
Vous savez ce qu'il étudie?
Le Parti communiste.
Voilà, extrait de ce documentaire Ouïghour à la force des camps qui avait été diffusé sur France 24 et Arte d'ailleurs en mai 2019. On avait d'ailleurs reçu l'un des journalistes qui avait réalisé ce documentaire. On retrouve Marc Julienne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Alors, il y a quelques jours, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a qualifié le traitement par Pékin de la minorité Ouïghour de tâche à la situation des droits humains dans le monde. Alors, on veut bien croire que l'administration américaine est particulièrement attentive à la situation des Ouïghours, mais on a aussi un peu de mal à se dire que c'est pas aussi un moyen de mettre la pression sur Pékin dans cette guerre commerciale qui se joue entre les deux pays. Comment faire la part des choses? Qu'est-ce qui relève d'une vraie préoccupation pour les droits de l'homme dans le Xinjiang et qu'est-ce qui relève d'un pur opportunisme diplomatique?
Alors, je pense qu'il y a un peu des deux, effectivement. La guerre commerciale fait que les États-Unis cherchent des leviers de pression sur la Chine pour accentuer cette pression dans leur marge de négociation. D'un autre côté, il faut savoir que la pression des États-Unis sur la question du Xinjiang n'est pas seulement l'administration, donc le gouvernement, mais aussi le Congrès, qui lui a moins d'intérêt direct dans les négociations, et je pense notamment au sénateur Marco Rubio qui est très très en avant sur les questions du Xinjiang et sur les questions des droits de l'homme, en particulier sur la minorité ouïghour. Il a proposé avec un sénateur démocrate un projet de loi qui a été voté au Sénat, qui doit être voté maintenant à la Chambre des représentants, sur justement la question des droits humains au Xinjiang, qui a été voté il y a seulement quelques semaines. Donc je crois que c'est un peu la part des choses.
Et puis peut-être aussi un élément à ajouter, Marc-Julienne, pour expliquer combien, du côté de l'administration américaine, on assume l'idée de lier les questions de guerre commerciale et les questions de droits humains. Une très récente nomination, celle de Elnigar Iltebir, pardonnez ma prononciation, qui vient d'être nommée à la Maison-Blanche responsable des questions, je cite, liées au commerce, à l'armée et aux droits de l'homme. Et cette personne, c'est une américano-ouïghour.
Exactement, oui. C'est une américaine d'origine ouïghour qui a été nommée en août au National Security Council, donc directement à la Maison-Blanche, et c'est la directrice pour la Chine au sein de la Maison-Blanche. Donc elle a été nommée en août, c'est vraiment un signal dans cette justement d'une dynamique de pression sur la Chine. En juillet, Donald Trump recevait à la Maison-Blanche, dans le bureau Oval, plusieurs victimes de persécutions religieuses, dont une Ouïghour, la fille d'un très grand économiste Ouïghour qui purge une peine de prison à perpétuité en Chine actuellement. Et puis, effectivement, en fait, je crois qu'il y a aussi une réelle volonté dans l'administration de Trump de mettre l'accent sur les questions religieuses et notamment liberté religieuse. Pas seulement dans le cas de la Chine et dans le cas des pressions sur la guerre commerciale. Donald Trump a fait un discours il y a deux jours à l'ONU sur les questions de persécution religieuse. Sur la question du Xinjiang, il ne monte pas en première ligne parce que lui, il s'occupe du deal commercial. En revanche, c'est son vice-président Mike Pence qui a plusieurs reprises ces deux dernières années a prononcé des discours dans lesquels il citait nommément la question du Xinjiang et des Ouïghours et des droits de l'homme qui étaient bafoués, et comme aussi le secrétaire d'État Pompeo, la citation que vous avez rappelée tout à l'heure.
Alors, on pourrait imaginer, comme tout à l'heure, on le faisait avec Charlotte Thomas, qu'il y aurait eu peut-être une solidarité des pays musulmans au nom d'une supposée fantasmée assez largement, nous disait Charlotte Thomas, Ouma. Or, ce qu'on constate, s'agissant de la question ouïghour, c'est qu'elle n'existe pas, cette solidarité. Les pays musulmans ne défendent pas véritablement le sort des Ouïghours, et non seulement elle n'existe pas, mais on vient même au secours de la Chine. Il y a un paquet là de 37 pays dans lesquels il y a des pays musulmans, des pays arabes notamment. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, je crois qu'il y a également l'Algérie, mais il y a d'autres pays, hein, la Russie, la Corée du Nord, mais enfin il y a des pays musulmans, et ils ont signé une lettre dans laquelle ils prennent la défense de la Chine. Comment le comprendre ?
Alors exactement, oui. En fait, c'était en réponse à une première lettre de 22 pays occidentaux qui ont écrit une lettre justement à la haut-commissaire pour les droits de l'homme de l'ONU pour appeler la Chine à fermer les camps et à respecter justement les droits de l'homme et la liberté religieuse. Quelques jours après cette lettre de 22 pays occidentaux, alors c'est plus que 37, même c'est presque une cinquantaine de pays du monde entier qui ont envoyé une lettre pour soutenir la Chine en expliquant que les politiques chinoises étaient totalement justifiées, qu'elles étaient efficaces pour lutter contre l'extrémisme religieux. dans l'ensemble de ces presque 50 pays, effectivement, plus de la moitié sont musulmans. Ce qui s'interroge justement sur cette solidarité islamique dans le monde. Je pense que Charlotte Thomas a déjà donné un élément de réponse. Je pense que pour la Chine, il y a deux réponses, dont l'une qu'a évoquée Charlotte Thomas. C'est la question de l'Oumma, déjà qui n'existe pas, cette communauté religieuse mondiale, cette communauté musulmane mondiale, pardon. Sur lequel effectivement il n'y a pas particulièrement, même y compris dans le monde arabe, il n'y a pas forcément une solidarité entre tous les pays. On le voit bien dans le Golfe, par exemple, que c'est pas parce qu'ils sont musulmans ou musulmans sunnites qu'ils sont forcément alliés et solidaires entre eux. Donc c'est un peu ce qui se passe avec les Ouïghours du Xinjiang. Et puis il y a aussi la question économique, très de réel politique, que la Chine a beaucoup, enfin les pays musulmans ont beaucoup d'intérêts commerciaux et financiers avec la Chine. Et du coup, qu'il est préférable de privilégier d'abord ses intérêts politiques et commerciaux avant les questions religieuses. Mmh. Alors, il y a quand même un pays, la Turquie, qui n'a pas signé la lettre et qui est dans une position très ambiguë, très ambivalente, puisque les Turcs sont d'origine turcique, donc qui sont turcophones, très très proches du peuple turc. La Turquie, depuis plusieurs décennies, s'est toujours montrée en soutien et a accueilli les Ouïghours exilés de Chine. Mais là, le président Erdogan se trouve dans une situation un peu difficile, puisque il a des ambitions régionales pour son pays, notamment de faire de la Turquie un hub commercial et énergétique dans la région. Et donc, du coup, en fait, la question ouïghour est passée vraiment en seconde ligne ces dernières années, ces derniers mois, pour justement favoriser plutôt l'approfondissement du partenariat avec la Chine.
Vous restez avec nous, René Bourman. C'est quand même là aussi un cas intéressant. On voit comment les droits de l'homme font l'objet d'une offensive diplomatique américaine, puis d'une contre-offensive diplomatique chinoise, où on va essayer de rallier un certain nombre de pays. C'est ça, la diplomatie des droits de l'homme.
Oui, c'est exactement ça. Il n'y a rien de plus cynique que la diplomatie des droits de l'homme, non pas que le reste des aspects de la diplomatie soit plus moralement défendable, mais s'appuyer sur une notion justement fondamentalement morale, ou plutôt disons éthique, pour mener des politiques qui n'ont rien à voir avec celle-ci, c'est là qu'on retrouve le cynisme. Et en effet, personne ne se préoccupe des Ouïghours, et j'entendais les deux intervenants, Charles Thomas, Marc-Julienne, évoquer cette prétendue Oumma. L'Oumma n'existe que sur un mode rhétorique, soit de la part des imams qui veulent imaginer s'adresser à 1,5 milliard de sujets, ou bien ceux qui fantasment sur un islam conquérant qui viendrait submerger les rivages occidentaux, ou que sais-je encore. Et l'Oumma, là, elle est très pratique. Je me rappelle, je ne sais plus quels intellectuels français qui parlait de la possibilité de voir se lever en masse plus d'un milliard de personnes sur un claquement de doigts de l'Arabie Saoudite ou de je ne sais quel leader religieux. Voilà typiquement le genre de fantasme contraire au fantasme des imams, mais tout aussi fantasmatique. Il n'y a pas plus de communauté des croyants musulmans qu'il n'y a une communauté des croyants catholiques ou juifs ou chrétiens ou que sais-je encore. Tout ça, ce sont des procédure rhétorique, mais ça n'est pas une réalité. Alors cela dit, le sort du Ouïghour est absolument tragique, et rien ne laisse penser qu'il va s'améliorer. Au contraire, enfin, c'est la politique de sinisation et de destruction de la culture ouïghour bat son plein en ce moment. La politique répressive, plus généralement, bat son plein. Ce qui nous rappelle que la Chine, qui a tout de même un passé peu reluisant en matière de droits de l'homme, je pense notamment au grand bond en avant de la révolution culturelle, donc dans les années 65-66, qui non seulement n'a fait l'objet d'aucune réprobation, mais a en plus été approuvé par un certain nombre d'intellectuels, enfin comme une espèce de grande avancée révolutionnaire. Donc, et l'Inde relève aussi de la même catégorie des pays qui sont indemnes de toute critique.
Merci beaucoup en tout cas à Marc Julien qui était à l'instant avec nous par téléphone, qui est, je le rappelle, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Un grand merci également à Ronnie Broman de nous avoir accompagnés
merci
ce matin, éclairé sur cette diplomatie des droits de l'homme, parfois extrêmement cynique, on l'a compris. Je rappellerai vous concernant notamment guerres humanitaires, mensonges et intox, on en a un petit peu parlé, diplomatie de l'ingérence, je voulais en parler, on n'a pas eu le temps, mais on vous réinvitera. Merci beaucoup Ronnie Broman.
Merci.